Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Tartouille. Tartouille.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale cinéma asiatique. Cinéma asiatique qui a été particulièrement bien servi ces derniers mois. Donc on a décidé de regrouper tout ça dans une émission et puis d'essayer d'aborder tous ces films. Alors beaucoup de films sortis par Carlotta Film d'ailleurs. Hein. Donc chez Carlotta Film, il va y avoir le coffret Takashi Ishii dont on va vous parler avec les quatre aventures de, quatre volets des aventures de Nami, l'héroïne culte de Takashi Ishii. Donc Original Sin, A Night in Nude, Alone in the Night et Angel Guts Red Flash. On va vous parler aussi de Hong Kong 1941, film de 84 de Po Shi Leong, un ovni, si j'ose m'exprimer ainsi. On parlera aussi de Parfum d'un sortilège de Toshiharu Ikeda, le réalisateur de La Vengeance de la Sirène, hein, dont on vous a dit tout le bien il y a quelques temps dans l'émission. On causera aussi d'un Kiyoshi Kurosawa à tendance érotique un peu étrange, Bumpkin Soup. On reviendra sur un Takashi Miike qui avait fait fureur en son temps, Graine de Yakuza. Toujours chez Carlotta, on parlera du coffret Lady Yakuza, l'intégrale de la saga qui comprend la pivoine rouge, la règle du jeu, le jeu des fleurs, l'héritière, chronique des joueurs, le retour d'Oryu, Prépare-toi à mourir et le code Yakuza. Et puis on terminera par Robotofilm, qui est aussi un super éditeur dans le cinéma asiatique et qui propose, alors là, excusez du peu, de ressortir tous les Atoshi, mais vraiment tous les Atoshi, parce que chez Whiteside, il en manquait pas mal. Et là, on commence par un premier coffret avec 5 films qui s'appelle Coffret Zatoichi, les années d'Ei, partie 1, et qui comprend les origines de Zatoichi, le bandit aveugle, la légende de Zatoichi, le masseur aveugle, la légende de Zatoichi, le secret, la légende de Zatoichi, un nouveau voyage, et enfin, la légende de Zatoichi, le fugitif. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver et Lucie Mautier pour leur aide sur cette émission. Pour causer cinéma asiatique, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
On va débuter cette émission par un coffret qui est sorti chez Carlotta Film, un coffret consacré à Takashi Ishii. Il nous pond là 4 films incroyables dans le coffret qui nous est donné à voir par Carlotta dans le coffret Takashi Ishii. 4 volets des aventures de Nami. Alors Nami, c'est vraiment en plus sa création, c'est son héroïne culte qu'on retrouve dans toutes ses créations. C'est un lui, c'est un, comment dire, un artiste complet. Il a fait du manga, plutôt du manga pour adultes d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle des gay kiga.
ce qu'on appelle aujourd'hui du roman graphique, en fait, en vérité. Bon, tout ça, c'est un peu pompeux, mais voilà. En tout cas, lui, il vient de cet univers-là. Il a une héroïne culte, donc, qui s'appelle Nami. Et cette héroïne culte, Damien, là, elle est mise en scène dans 4 films. Et ça démarre en 92 avec un film qui s'appelle Original Sin, le péché originel.
Alors, le péché, il est assez particulier. Hein. Le film s'ouvre sur un jeune homme qui arrive dans une gare où il pleut. Il percute par accident une jeune fille. Il commence à la suivre. Il se rend compte que cette jeune femme, elle travaille dans une agence immobilière. Du coup, il va réussir à se faire embaucher par le patron de cette agence pour pouvoir essayer de développer un amour avec cette dame. Le problème, c'est que cette dame, elle est mariée justement au patron. Alors pour tenir le rôle de Nami ici, on a Shinobu Utake et j'ai découvert que c'était quelqu'un qui faisait souvent les voix dans chez les Ghibli, ce qui m'a fait assez rire. Y a d'autres personnages, par exemple ce jeune homme un peu bizarre qui s'appelle Makoto Itano, il est joué par Masatoshi Nagase qui a une très longue carrière et qu'on peut encore voir au cinéma. Il y a quelques mois, il était présent dans le très beau Maître du Kabuki de Lin Sang-hee. Et pareil, la personne qui lui donne la réplique en tant que mari qui va finir par être cocufié, c'est l'acteur Hideo Murota qui a joué dans La Femme Scorpion. Alors en fait, le truc particulier avec ce péché originel, c'est la relation et l'ambiance qui sont dans le film, parce que c'est un truc qui est assez d'à part. C'est une relation d'amant, bon, déjà qui commence un peu trop comme une agression sexuelle, mais qui donne en fait naissance à un véritable amour de la part de Nami. Nami qui, lorsqu'on l'entend parler, en fait, développe littéralement un polyamour. C'est-à-dire qu'elle aime son amant, mais elle aime également son mari. Et elle se retrouve dans une situation et dans une société surtout où c'est très mal vu, c'est vraiment pas la bonne époque. Et elle va se retrouver en fait tirée entre les deux. Et pour mettre ça en avant, Ishii va avoir une caméra qui est assez particulière, un certain naturalisme urbain précisément, je dirais un naturalisme domestique avec des longs plans d'intérieur notamment qui permettent de mettre en avant comment va se jouer la tromperie au sein du couple, même si bien souvent ça donne, c'est surtout des quiproquos qui mènent à des situations assez compliqué. C'est une caméra qui arrive bien à saisir une nature humaine qui a une certaine reproduction sociale. C'est-à-dire, il y a un moment où Nami, elle parle de sa mère, elle explique que sa mère, elle est tombée amoureuse d'un autre homme, que ça s'est très mal passé. Et en fait, on retrouve un peu ce qu'elle est en train de faire, un peu comme si elle revivait les pas de sa mère. Je disais que le quiproquo, il joue beaucoup dans la construction de l'amour, parce qu'elle, au final, ce qu'elle veut, c'est un amour qui est assez souple, mais c'est pas ce que les deux hommes, eux, veulent, par contre, dans cette relation, ce qui mène à un destin qui est essentiellement tragique et extrêmement violent. Et j'apprécie beaucoup ce que fait Hideo Murata dans le rôle du mari qui devient cocu, parce qu'au départ, il est présenté comme le patron gênant, c'est-à-dire qu'il fait des blagues, il essaye de faire rigoler tout le monde, et ensuite, quand il se rend compte qu'il est trompé, il y a une véritable colère, une violence qui émane de lui, qui sont assez inquiétants. Et en dépit de cela, il essaye de refaire son couple. Donc, c'est vraiment un film, comme je disais au début, avec des relations, une ambiance qui est très particulière et qui est vraiment, je trouve, remarquablement intéressant. On a envie de savoir comment ça va finir. Est-ce qu'elle va parvenir à obtenir le bonheur ou est-ce que tout va finir dans le sang ?
En fait, c'est assez étonnant. En fait, ce personnage de Nami, c'est presque une sorte de personnage. Il construit en fait une sorte de mythologie autour d'un personnage qui n'est jamais joué par la même actrice. Hein. D'ailleurs, hein, c'est assez rigolo.
Un personnage d'ailleurs qui est changeant au final dans les histoires.
C'est ça, en fait. Il n'y a jamais... en fait, elle pourrait s'appeler autrement dans les autres films. En fait, ce n'est pas des vraies suites. C'est très étonnant. En fait, elle personnifie, je pense, hein, c'est un thème qui revient souvent dans le cinéma japonais, mais elle personnifie en fait la femme bafouée japonaise. Elle personnifie ça, en fait. La femme victime de la masculinité toxique. C'est vraiment... c'est des termes qu'on n'employait pas là, quand il fait ses films au début des années 90, mais c'est exactement ça. En fait, on nous décrit vraiment une masculinité toxique. C'est-à-dire que oui, Nami, elle n'est jamais vraiment effrayante. Pourtant, dans les films, elle prend parfois des décisions. Enfin, c'est assez hardcore, hein, faut le dire. Hein. On est quand même quelque part... Il y a un côté film noir, mais il y a un côté Pinku Eiga, il y a un côté érotique, mais violent, il n'y a pas forcément de plaisir de la chair, enfin, c'est assez étonnant. Et en fait, il y a une esthétique, je l'ai rappelé, très particulière, où on utilise des néons pour casser le plan où on utilise des angles biscornus pour signifier ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit tourmenté des personnages. Enfin, il y a un vrai travail. Alors, je pense que ce n'est pas des gros budgets. Je pense qu'ils filment en vidéo, tout ça. Enfin, que tout n'est pas fait avec beaucoup d'argent. Mais il y a une vraie ambition, en fait, dans l'écriture et dans la mise en scène. Le deuxième film là, qui est proposé, A Night in Nude, c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Giro, qui accomplit pour ses clients des tâches voilà, peu avouables du quotidien. Et Nami, elle va arriver dans son bureau et elle va l'entraîner dans l'assassinat d'un violent yakuza. Voilà. Donc là, c'est pareil, masculinité toxique, vengeance, sexe, violence, Eros et Thanatos. Quoi, hein, dans le troisième, là... Étonnant, Nami, son mari est mort. C'était un agent infiltré au sein d'un clan de Yakuza. Du coup, Nami décide de le venger pour laver son honneur parce qu'il est enterré comme un Yakuza, en fait. Comme s'il avait été un voyou. Alors qu'elle, elle sait que c'était un infiltré, un agent infiltré. Donc, du coup, elle décide de le venger. À chaque fois, il y a la question de la vengeance. Il y a... parce que d'écrire les films de manière linéaire n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait, pour parler de ce coffret. C'est vraiment une sorte d'œuvre à la fois plastique et sur le fond et la forme qui forme un tout. C'est pour ça que le coffret, il est plutôt bien vu, d'ailleurs, il est plutôt bien foutu. Je te laisserai parler d'Angel Guts. Parce que l'autre culte de Takashi Ishii, c'est Angel Guts, c'est la série des Angel Guts, il ne les a pas tous réalisés. Et là, on a le quatrième film du coffret, c'est Angel Guts, Red Flash, qui est aussi... une histoire de Nami. Hein,
Ouais, on retrouve les thématiques que tu as dit. Bah, ici, elle joue une femme qui, quand elle était plus jeune, a subi une agression sexuelle. Toujours. Elle a des flashs qui lui reviennent. Elle va finir une soirée un peu trop arrosée. Elle va se retrouver dans un hôtel où elle va resubir une agression. Sauf que quand elle va se réveiller dans cet hôtel, la personne qui a commis cette agression est morte à côté d'elle. Et en fait, le truc intéressant, c'est que tout ce qu'on a des agressions qu'elle a subies, c'est cette figure d'homme un peu dans l'ombre, c'est ce couteau. Il y a un côté, tu parlais de la proximité entre le Japon et l'Italie, il y a des vagues, je trouve, un peu de giallo dans celui-ci, avec ce tueur constamment dans l'ombre qui est censé posséder un couteau. Et tu as toute une histoire de vengeance parce que tu as un personnage qui va être transformé, qui va devenir une figure de la vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette figure de la vengeance aurait dû être une figure d'héroïsme, parce que ce que fait cette figure-là, c'est qu'elle tue les hommes qui font des agressions. Et au final, le film la met un peu dans une position de méchante, légèrement manipulatrice, même si la fin, cette figure a cette image qui est redorée. Du coup, c'est des films avec des thématiques qui tournent les uns autour des autres, mais que le personnage de Nami va toujours être différent dans chacune de ses incarnations et dans chacun de ses films.
Et ce qui est intéressant aussi dans le quatrième film, c'est que c'est un film qui se déroule dans le milieu de l'industrie du porno et qui, du coup... il y a une sorte de côté nuit américaine, c'est-à-dire, parce qu'on parle de... Enfin, c'est un Pinku Eiga mélangé avec un peu de polar, on l'a dit tout à l'heure. Et mais Pinku Eiga, roman porno, cinéma porno, enfin rigolo, les univers s'entrecroisent comme ça. Et aussi, ce que je voulais ajouter par rapport à tout ça, c'est aussi le rôle de l'eau, le rôle des éléments, qui revient beaucoup hein, dans la série, avec une certaine idée d'une pureté impossible, d'une rédemption impossible aussi. Enfin... c'est hyper intéressant, c'est vraiment c'est pas que le réalisateur de Gonin, Takashi Ishii, c'est aussi un réalisateur de toute cette série là. Alors moi je demande qu'à redécouvrir plus de films de lui, hein. Mais en tout cas ce coffret Takashi Ishii disponible chez Carlotta Film, c'est vraiment qui est sous-titré Aventure et Mésaventure de l'héroïne Nami, c'est vraiment un coffret à posséder dans sa Blu-ray Tech, on va dire ça comme ça. C'est vraiment une belle réussite, un bel écrin. Et en plus, il y a plein de bonus, il y a plein de choses très intéressantes. Et il y a aussi un essai vidéo qui s'appelle « Les multiples visages de Nami » de Matthew E. Carter que je vous conseille vivement.
Oui, Carlotta a fait du bon travail, qui est surpris.
Voilà, exactement, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Culture prohibée. Carlotta remet au devant aussi du jour mon cher Thomas, un réalisateur qu'on connaît tous en fait, sans le savoir, hein, puisqu'il avait eu un film qui avait fait à l'époque un gros carton critique qui s'était bien exporté partout dans le monde, et qui s'appelle Po Chi Leong. Et il y a deux films, mais là on va parler que d'un film, on parlera de l'autre dans une autre émission. Et là on va parler d'un film qui s'appelle Hong Kong 1941 de 1984, mon cher Thomas.
Po Chi Leong, oui, c'est un réalisateur assez prolifique, hein, qui a réalisé des longs métrages pour le grand écran, le petit écran, des séries télé de différents genres. Mais comme tu viens de le dire, nous en reparlerons dans une prochaine émission. Et donc, ce Hong Kong 1941, qu'il a réalisé en 1984, est, à ma connaissance, l'un des premiers films à parler de l'occupation japonaise en Chine. Mais lui ne se contente pas de ne faire qu'un film de guerre, hein, parce que les autres films auxquels je pense, il y a Les Démons à ma porte et puis City of Life and Death, qui sont des films assez durs. Et là, lui, il prend un autre parti pris parce qu'il suit, il montre l'occupation japonaise à travers le point de vue de trois personnages qui forment une sorte de triangle amoureux. Donc il y a Hanam qui a 19 ans, rêve d'échapper au sinistre mariage qui est arrangé par son père et qui veut pouvoir vivre au grand jour son histoire d'amour avec Kang, son turbulent ami d'enfance. Ils vont faire la connaissance de Fei, un acteur sans emploi incarné par Chow Yun-fat, qui leur propose de quitter Hong Kong. Alors, une étrange relation s'installe entre les trois personnages, faite de passion, d'ambiguïté et d'abnégation. Par une mise en scène dynamique, Po Chi Leong signe à la fois une œuvre romantique et un drame historique aux allures de film d'aventure. Avec une réalisation enlevée, le film est traversé par un véritable souffle romantique, avec une pointe de mélancolie et tout en s'inscrivant dans un contexte historique décrit avec ce qu'il faut de réalisme mais aussi de sobriété. Le 25 décembre 1941, les forces coloniales britanniques abdiquent devant l'armée japonaise. S'en suivent alors des massacres, des viols et des exécutions. Po Chi Leong évite de s'attarder sur ce pan de l'occupation de Hong Kong pour mieux se concentrer donc sur ces trois personnages à travers lesquels il montre les conséquences sur la population chinoise. L'exode, la pauvreté à laquelle en sont réduits les habitants, la débrouille, les rationnements et le marché noir qui en résulte. La collaboration, les rafles, les abus de pouvoir, les tortures. Cependant, le film ne tombe jamais dans la complaisance, malgré une scène un petit peu dure avec une utilisation des pétards assez originale, à ne pas reproduire chez vous. Hein. Sous les péripéties qui mettent en scène des confrontations entre hommes, le cinéaste donne aussi une autre image de la masculinité, hein, notamment à travers le personnage de Chow Yun-fat, qui est quand même le mec assez viril, grand, costaud, et là, qui, par rapport au film de John Woo dans lequel il joue, prend un rôle un peu à contre-emploi. Et si les deux acteurs principaux crèvent l'écran, Po Chi Leong dresse aussi le portrait d'une femme prise entre deux hommes, une femme qui doit faire des choix et s'imposer en pleine tourmente de l'histoire. Cette histoire d'amour et d'amitié montre qu'il faut savoir faire des choix, que pour rendre heureuse la personne qu'on aime, il faut savoir se mettre en retrait. La façon dont est traitée la place de la femme passe aussi par cet officier japonais qui veut l'épouser sans même lui demander son consentement. Pourtant, et c'est l'autre intérêt du film, les Japonais ne sont pas forcément décrits de façon manichéenne. À l'exception de cet officier japonais, ils sont même en retrait. Le réalisateur préfère montrer les lâchetés, les compromis que font certains Chinois face à l'envahisseur. Pour autant, les exactions des soldats japonais ne sont pas éludées, mais Po Chi Leong préfère jouer la carte de la suggestion, de l'ellipse et de l'allégorie, notamment pour mettre en évidence l'influence de cette occupation sur la population locale.
C'est donc signé Po Chi Leong, alors le film connu dont je vous parlais tout à l'heure, c'est La Sagesse des Crocodiles avec Jude Law. Hein. Et c'est donc signé Po Chi Leong et c'est disponible chez Carlotta Film, ça s'appelle Hong Kong 1941. Et on vous le conseille vivement. Toujours chez Carlotta Film, un film de Toshiharu Ikeda. Alors, Toshiharu Ikeda, c'est les Evil Dead Trap. Là, on est pareil, pas loin du giallo, du slasher, enfin un peu un mélange des deux. Evil Dead Trap, c'est sorti chez Le Chat qui Fume. Et puis surtout, un film assez exceptionnel qu'on a tous découvert très récemment grâce à Carlotta. Un film, là aussi, de la même année que celui-là, un film de 85 qui s'appelle La Vengeance de la Sirène, qui est un film extraordinaire. Et un film qu'on ne connaissait pas, hein, faut dire ce qui est. Hein. Moi, je ne l'avais jamais vu avant que Carlotta l'exhume. Donc, achetez-le, hein. Allez, dévalisez Carlotta. Et il est épuisé, me fait signe Thomas. Bon, bah écoutez, il fallait l'acheter au bon moment. Voilà, vous n'avez plus qu'à aller fureter sur Internet, voir si vous le trouvez. Et là, il y a un autre film de Toshiharu Ikeda, Parfum d'un sortilège. Donc achetez-le celui-là, parce qu'il va être épuisé aussi, du coup. Qui est un film qui est un Pink Uega, hein, qui est donc un film érotique, hein, voilà, et là qui est un drame érotique. Et vous allez voir, il y a encore des thématiques, des choses qui font lien avec La Vengeance de la Sirène, puisque c'est l'histoire de Ezaka qui sauve de la noyade Akiko, qui s'était jetée d'un pont. Il apprend qu'elle a fui un époux violent, masculinité toxique, toujours. On est encore toujours là-dedans, hein, c'est, voilà, on n'en sort pas. Et il va commencer entre eux une passion torride, toutefois dans un contexte assez paranoïaque. Et alors, c'est là que c'est vraiment un cinéaste atypique, Toshiharu Ikeda, dont on n'a pas vu grand-chose en fait. Donc, c'est super que Carlotta continue de sortir des films parce qu'on a vraiment envie de découvrir. Il a une vision assez unique. Hein. Et là, c'est très étonnant parce qu'on a l'impression que ça l'emmerde un peu de faire un Pink Uega. Donc du coup, il balance très vite les scènes érotiques pour arriver sur autre chose et sur un film ultra paranoïaque, en fait. Le sujet du film n'est certainement pas de mettre en scène l'érotisme, c'est comment on met en scène la paranoïa. Et en fait, les scènes érotiques deviennent des moments d'incommunicabilité dans un contexte paranoïaque. En fait, c'est un film, moi, qui m'a rappelé, alors, toute proportion gardée, c'est des films différents, Le Bug de Friedkin. C'est vraiment ce côté-là... paranoïaque, avec une relation passionnelle qui se forge aussi autour de la paranoïa. C'est vraiment très étrange, puisqu'en fin de compte, c'est un amour impossible, en fait, ce qu'ils sont en train de vivre. Et surtout, il y a une utilisation de l'eau qui devient un élément métaphorique, comme on l'a dans La Vengeance de la Sirène. Bon, là, il n'y a pas une aussi belle BO, par contre, que dans La Vengeance de la Sirène. Mais, en fait... ce film, c'est vraiment une vraie découverte. C'est comme une sorte de thriller inversé avec des accents érotiques, mais qui mélangerait l'esthétique du film noir aux obsessions aquatiques, après, j'ai envie de dire presque humides, là, pour le coup, pour un Pink Uega du réalisateur. Et c'est vraiment, pour moi, hein, un film à redécouvrir absolument. Très différent, par exemple, d'un autre film sorti chez Carlotta, un film là qui s'appelle Bumpkin Soup de Kiyoshi Kurosawa, qui est là aussi une manière de s'affranchir de l'obligation de faire un Pink Uega. Hein, parce qu'il y a une grande mode du Pink Uega, à un moment, il fallait à tout prix faire... Enfin, tous les réalisateurs y sont passés, en fait. Hein, voilà, ils tournaient à des rythmes frénétiques et ils faisaient des Pink Uega, ces petits films érotiques, là. Et bah, là, c'est un peu comme si le collège foufoufou devenait un truc libidineux, quoi. Concrètement libidineux, je veux dire, là, voilà, c'est pas pour les enfants. Et donc là, c'est l'histoire de la jeune Aki qui quitte sa campagne, hein, voilà, puis qui va à l'université à Tokyo. Et elle y va aussi dans cette université parce qu'il y a Yoshioka, un garçon dont elle est amoureuse depuis qu'elle est au lycée. Et sur le campus, elle va rencontrer plein de personnages singuliers, en fait. Plein d'étranges personnages. Alors bien sûr, il va y avoir des étudiants qu'on pense gagner par le priapisme, hein, parce que tellement ils sont obsédés sexuels. Mais ça, c'est pareil, c'est un peu des personnages de manga, voilà, un peu classiques. On va découvrir des intellos, des cyniques, des, voilà. Et là, en fait, ce qui est rigolo avec ce film, c'est qu'il fait une sorte de film universitaire qui est une sorte de comédie érotique un peu étrange, avec des scènes... En fait, il n'y a pas de logique, il y a des scènes un peu bizarres qui s'enchaînent. On perd un peu le fil par moment de l'histoire, quoi. En fait, mais c'est assumé. Kurosawa, lui, il assume, il dit qu'il voulait faire un truc à la Godard, en fait. C'est assez étonnant, en fait. On imagine bien Godard faire un Pink Uyghur, quoi. Voilà, ça pourrait donner à peu près ça, voilà. Et puis, il y a des idées de mise en scène. C'est très difficile, en fait, de décrire ce film, qui est assez indescriptible, en fait. On a l'impression qu'en fait, ils s'en foutent un peu de son scénario, qu'ils s'en foutent un peu de faire un film érotique. Enfin, il y a tout ça dans le film, mais il y a surtout une mise en scène très particulière, avec par moments des plans où la caméra elle est zénitale, elle flotte comme ça. C'est alors... Et puis le film est parfois sensuel, mais aussi parfois assez flippant. C'est pas trop. C'est assez étonnant de la part du réalisateur quand on connaît la suite de sa carrière, et évidemment. Et là, au final, alors c'est pas un grand film, hein, mais c'est une curiosité bizarre, en fait. Je le décrirais comme ça. C'est loin de la maîtrise formelle de Cairo ou de Cure, par exemple, hein, qui sont des très grands films de Kiyoshi Kurosawa. Là, c'est une commande qui est sabordée par son auteur, en fait, au profit d'une certaine idée du cinéma. Et en fait, ça donne une sorte de Pink Uyghur presque punk, quoi. C'est très étonnant, dans sa forme, hein, bien sûr. Hein. Donc, ça s'appelle Bumpkin Soup. C'est signé Kiyoshi Kurosawa. Dans cette même vague de films, Carlotta a sorti aussi Graines de Yakuza de Takashi Miike, film de 96. Alors, c'est un film qui avait plutôt fait son effet à l'époque. Moi, je me rappelle. Hein, bon, après, Takashi Miike, alors il y a à boire et à manger parce qu'il est hyper prolifique. Il a quand même tourné plus de 120 films, séries télé, tout ça. Enfin, c'est dingue. C'est absolument dingue. Donc, évidemment, quand on tourne autant, on parle que des trucs, quoi, voilà. Et puis il y a aussi un côté fauché des fois dans son cinéma. Alors pour le coup, un peu comme le film précédent, là il y a un côté punk, hein. Là il y a un côté punk violent aussi, nihiliste en fait. Et bon, on rappelle, hein, Takashi Miike, Dead or Alive, Itchy the Killer, et puis surtout pour moi ce qu'il a fait de mieux, The Audition, en tout cas dans ce que j'ai vu, hein. J'en ai vu quelques-uns quand même, même une vingtaine, hein. 20-30, hein, je ne sais plus, mais pas mal. Et Imprint aussi, La Maison des Sévices, un épisode assez incroyable de la saison 1 de Masters of Horror. Et en fait, cet épisode, d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que c'est là qu'on voit bien que ce mec est un côté punk, quoi, en fait, parce que Takashi Miike, on lui dit, comme on le dit à tout le monde pour faire les Masters of Horror, il y aura zéro censure, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, c'est le seul épisode qui a été censuré. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, c'est quoi ce truc de taré? Donc du coup, ça démarre très fort, hein, avec, je me rappelle, bon, voilà, fœtus récupéré, tué, balancé à l'autre, enfin... Ce mec est fou, je voulais que je vous dise, il fait des films de dingue. Et là c'est l'histoire d'un chef yakuza qui tue de ses propres mains son fils aîné. Tout ça pour apaiser les tensions avec différents clans. En fait, c'est une sorte d'offrande à la paix, en fait, ce qu'il fait. Hein, pour, bon, ne regardez pas bizarrement dans le studio. Dans les milieux mafieux, ce genre de truc se pratique. Hein, on l'a vu dans d'autres films. Caché derrière la porte, le frère cadet est témoin de tout ça. Et 10 ans plus tard... Alors c'est devenu un lycéen modèle qui s'appelle Riki Fudo, et il va décider de venger son frère. Et donc, avec d'autres, avec des adolescents, des enfants sanguinaires, il va monter une bande qui va éliminer tous les chefs yakuza. Eh oui, c'est comme ça. On est chez Takashi Miike. Et ben celui-là, c'est plutôt du bon, en fait, parce qu'il y a un petit grain de folie. Vous vous rendez compte que le scénario, quand même, il tenait sur une feuille de PQ. Hein, voilà. Et donc, du coup, c'est du bon Miike. C'est celui qui est imprévisible, qui est chaotique, dont la violence explose comme ça à la gueule du spectateur d'un seul coup. La violence gratuite, hein, faut dire ce qui est. Hein. Donc, on aime ou on n'aime pas. Ça, par contre, ça, je sais que tout le monde n'est pas fan. Et en fait, le film a vraiment un côté assez barré, quoi. Il y a des zooms dans tous les sens, c'est filmé de travers, le cadre est cassé, comme ça. Il y a pas mal de plans, il y a pas mal de variations des valeurs de plans. Il y a quand même quelque chose... Alors, évidemment, parfois, c'est un côté clipesque. Hein. Ça, c'est un peu la limite de son cinéma, qui, par certains aspects, a mal vieilli. Mais malgré tout, là, le mauvais goût assumé de Takashi Miike, en particulier via un personnage de tueuse atypique, c'est une constante, hein, chez Miike, hein, les femmes qui envoient du lourd. Hein. Donc, comment dire, c'est assez réjouissant, en fait. Et son nihilisme, quand même, font de ce film... Un très bon Takashi Miike. C'est pas encore Visitor Q, mais c'est déjà très mal élevé et jouissif. Donc ça s'appelle Graines de Yakuza et c'est disponible chez Carlotta Film.
Yadayo oten to san anta na tete mo kumote mo ore ni fuku kaze.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial cinéma asiatique.
Je vais changer d'éditeur, moi, avant qu'on revienne chez Carlotta pour terminer cette émission. Mais je vais changer d'éditeur pour vous parler d'un éditeur que moi, je découvre, là, petit à petit, qui s'appelle Roboto Film, qui nous sort plein de choses, plein de cinéma asiatique. Et là, en particulier, on va parler de cinéma japonais et qui nous sort plein de belles choses. Et là, je vais vous parler d'un coffret qui s'appelle le coffret Zatoichi, les années d'Aï, partie 1. Donc c'est chez Roboto Film. On va retrouver 5 films de la saga Zatoichi. J'ai envie de dire 5 films ou presque. Hein? Donc pourquoi ? Parce que, il y a beaucoup d'inédits hein, dans ce coffret. Hein. Et il y a en particulier dans les inédits les origines de Zatoichi, le bandit aveugle, d'un film de 1960, qui est en fait pas vraiment un Zatoichi, qui vient avant, mais qui raconte la même chose avec le même acteur. Donc... Les concepteurs du coffret chez Roboto Film sont partis du principe que, et ça c'est une belle découverte parce qu'en fait même ce coffret-là dans les coffrets Criterion et tout, je crois que c'est Criterion qui les avait sortis, il n'y était pas. Donc là c'est une bien belle découverte. Et ils sont partis du principe que ce film-là était une sorte de Zatoichi avant Zatoichi. On y retrouve Shintaro Katsu qui est Suginoichi dans celui-ci et qui est donc un bandit aveugle, froid et ambitieux, qui est prêt à tout pour s'emparer du pouvoir au détriment de ceux qui l'entourent. Alors, ça, c'est le premier film du coffret. Après, il va y avoir le film qu'on connaît tous, qui était déjà sorti, La légende de Zatoichi, le masseur aveugle, qui est un film de 62, où Zatoichi va rendre visite à un chef yakuza et il va être entraîné dans un conflit, avec un clan rival et se lier d'amitié avec un samouraï malade du camp adverse. Tandis que la guerre entre les deux clans devient de plus en plus forte. Elle se rapproche à grands pas. Dans La légende de Zatoichi, le secret de 62, là, on arrive tout le reste du coffret, c'est de l'inédit. Hein. Les tensions entre deux gangs rivaux éclatent au grand jour. Chaque chef désigne son champion. Un ancien samouraï devenu pêcheur, porteur d'un lourd secret. Et Zatoichi, joueur invétéré et masseur, dont le sabre frappe avec la fulgurance de l'éclair. Sorti l'année suivante, dans le coffret, il y a La légende de Zatoichi, un nouveau voyage, un film de 63. Dans lequel Zatoichi essaye de se retirer dans son village natal. Et telle une malédiction, il est rattrapé par la violence. Et il se retrouve mêlé à un conflit entre un clan de yakuza et des villageois opprimés. Il va être les 7 mercenaires à lui tout seul. Et puis enfin, il y a La légende de Zatoichi, le fugitif, film de 63, qui va être le premier Zatoichi en couleur. Il arrive dans la ville de Shimonita et apprend qu'un chef yakuza local a mis sa tête à prix. Donc, il découvre aussi qu'il y a un ancien amour qui a été assassiné. Donc, il est très, très, très colère. Et il part affronter les meurtriers. Et ça va chier, quoi. Voilà. Donc, alors, décrit comme ça, on a l'impression que c'est des films où ça tabasse tout le temps, où c'est très violent, tout ça. Mais en fait, non, c'est des films assez philosophiques. C'est des films portés par un acteur assez incroyable qui est Shintaro Katsu. Et c'est des films, en fait, qui sont servis par toujours des artisans très talentueux. Ce qui fait que cette saga de Zatoichi, elle a gagné vraiment un culte avec le temps. Parce que lui, en fait, c'est une sorte de clochard, en fait, une sorte de vagabond comme ça qui erre et qui est vraiment quelqu'un qui a une grande humanité et qui veut toujours protéger les faibles. Il n'est pas exempt de tout reproche. Hein. Il lui arrive d'être un peu arnaqueur, d'être un peu tricheur et tout et tout. Mais il fait justice quand même. Il est du bon côté du manche de ce côté-là. Et en fait, le vrai premier film de la série, c'est quand même signé Kenjiro Mizumi. Et Kenjo Mizumi, c'est quand même un réalisateur assez extraordinaire. C'est un immense cinéaste qui, par exemple, a signé la trilogie du sable, qui est sublime, et puis la saga Baby Cart, qui est extraordinaire. Voilà. Donc, avec un tel metteur en scène aux commandes, on pouvait se douter qu'on allait avoir quelque chose d'assez exceptionnel. Et on va vraiment avoir cette série de films, qui est une série de 26 films. Il initie une série de 26 films, 26 films de Chambara, qui vont être ultra cultes, hein, qui le sont toujours aujourd'hui. D'ailleurs, sinon, ça ne ressortirait pas aujourd'hui dans des coffrets comme ça. Et là, donc, on a ce film précurseur, plus les quatre premiers films de la série. On a aussi pas mal de films dans le truc là qui sont réalisés par dans le coffret qui sont réalisés par Kazuo Mori aussi, qui est aussi un très bon metteur en scène, qui est un peu moins connu et pourtant qui est un réalisateur aujourd'hui qui mériterait vraiment d'être remis en avant. Et on va faire confiance à nos petits éditeurs. Et puis il y a aussi Tanaka Takuzo, qui est réal, par exemple, du très bon Kujiragami, qui est sorti aussi chez Roboto Film, et qui, signe, lui, un nouveau voyage dans toute cette série de films, film qui signifie le passage du personnage de Zatoichi à la couleur. Et alors, plutôt que de parler film par film, moi, j'ai envie de dire que, en fait, ce qui est fascinant, c'est que cette série de films, c'est une série de Chambara assez unique, parce qu'en fin de compte, c'est une série assez spirituelle, où l'action est assez longue à venir à chaque fois et elle explose comme une bombe, s'inscrivant en cela dans certaines traditions du cinéma japonais, des films comme Harakiri, par exemple, tout ça. Toi, Thomas, je crois que c'est un personnage, c'est pareil, qui te parle, ce personnage, qui est aussi, qui est bien servi par tous les metteurs en scène que je viens de citer, mais qui est aussi un personnage assez fascinant parce que c'est un personnage à la fois complexe, touchant, et pourtant interprété par un acteur dont on peut se dire qu'il n'a pas vraiment le physique de l'emploi, et ça passe bien, quoi. C'est assez impressionnant, cette série de films.
Oui, c'est un personnage qui trompe son monde, parce que, comme tu l'as dit, c'est une sorte de vagabond. Alors, on le prend de haut, les Yakuza le prennent de haut, le prennent pour un imbécile, mais en fait, il se trouve être plus retors qu'on ne le pense. Il aime bien tricher au dé, par exemple, hein, tout aveugle qu'il est. Et c'est un personnage aussi qui a son code de l'honneur, qui cultive une certaine... une certaine philosophie. Par exemple, dans Le Masseur aveugle, il se lie d'amitié avec ce samouraï qui fait partie d'un clan adverse. Et tous les deux vont se respecter jusqu'à la fin où ils devront s'affronter. Et il va cultiver cette espèce d'amitié, de respect de l'autre. Et c'est loin d'être un personnage simpliste, c'est un personnage beaucoup plus ambigu et complexe qu'on ne pourra le croire, et c'est ce qui fait toute la richesse des films, parce que les films, en fait, comme tu l'as dit, la violence explose à la fin, mais ça, c'est pas ce qu'on attend, en fait. Finalement, c'est pas ce qu'on attend des films. Ce qu'on attend des films, c'est comment lui va traiter l'adversaire, ou les rencontres qu'il va faire, tout ce côté philosophique du personnage, de sagesse, etc., qui fait l'intérêt des films, les rencontres qu'il fait, et aussi dans Le Masseur aveugle, ce qu'il montre de Yakuza, c'est ce qu'on peut voir aussi, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les films de la mafia, c'est qu'il montre que ce sont des minables, quoi.
Oui, et puis ce sont des films aussi sur la marginalité. C'est un marginal, tu l'as dit, c'est un héros marginal, et en cela, c'est un héros atypique, et en plus, c'est un héros handicapé. Et ça, je pense que c'est un message très fort, c'est-à-dire qu'il y a fort à parier que le personnage de The Red Devil, pour le dire à l'anglaise, ou Daredevil, si on le dit à la française, n'aurait sans doute jamais vu le jour sans ce Zatoichi, sans ce samouraï aveugle, qui développe, c'est hautement improbable, hein, mais qui développe des capacités au combat complètement hallucinantes par rapport à son handicap. Et je pense que c'est important aussi de démontrer au cinéma, parce que c'est pas rien quand même, c'est 26 films avec un héros handicapé. Parce qu'être aveugle, c'est un sacré handicap quand même, surtout pour être un samouraï, hein, voilà, et pour jouer au dé et tricher. Donc, puis c'est un personnage facétieux aussi, c'est-à-dire qu'il peut être marrant. Parce que quand on voit Shintaro Katsu, on n'a pas l'impression qu'il peut être aussi drôle que ça. Et c'est un personnage très touchant. Bon, là, Sauf dans le Fugitif, où là, il est vraiment colère. Il est vraiment très colère. Et là, il est touchant aussi, hein, mais je veux dire, il est vénère vachement plus que dans les autres films. Il y a la vengeance derrière. Et tout ce que tu disais, Thomas, c'est développé dans des bonus très intéressants dans le coffret. Il y a un certain Clément Roger qui replace l'œuvre dans son contexte, qui vraiment revient sur les spécificités de ce bandit aveugle. Et puis, il y a Takashi Miike qui parle un peu du film et de ça, mais il y a aussi Fabien Moreau qui fait un gros, gros boulot autour du mythe Zatoichi. Donc vraiment, c'est... Alors on espère que, tous les prochains coffrets vont sortir assez vite. Je pense que ça va être vite épuisé aussi. Hein, donc précipitez-vous dessus, parce que franchement, en plus, les copies sont superbes. C'est le coffret donc Zatoichi, les années d'Ai, partie 1. C'est chez Roboto Film. Et on va retourner chez Carlotta Film pour parler avec Damien et pour conclure cette émission donc d'un coffret, le coffret Lady Yakuza, dont l'intégrale, donc les 8 films sont sortis là chez Carlotta Film dans un seul et même coffret. La série de Lady Yakuza, également appelée la série de la Pivoine Rouge, qui est très particulier. C'est un mélange de Shambara, de films de Yakuza, qu'on appelle d'ailleurs au Japon le Ninkyo Ega. Mais toi, je crois, Damien, que on donne aussi un autre nom à ce genre de film.
On les appelle aussi les Yakuza Ega, dans l'idée, en fait, même s'il y a Yakuza dans le nom, c'est une branche un peu particulière qui reprend l'idée d'un yakuza un peu chevalier avec une cause noble, un code moral qu'il faut respecter face à un clan qui, eux, ne vont pas le respecter et qui vont être un clan criminel sans foi ni loi. Et on suit du coup dans Lady Yakuza, que j'ai grandement adoré, ça a été une magnifique découverte. On y suit justement Ryuko Yano, qu'on appelle aussi Oryu, alias la Pivoine Rouge, qui est jouée par Sumiko Fuji, qui à travers ses 8 films va faire un peu constamment la même chose. Et moi, ça me fait penser un peu à Lucky Luke, c'est-à-dire qu'elle voyage, elle se retrouve dans un coin où on va avoir besoin de rétablir l'ordre, entre guillemets la justice, ici c'est l'ordre Yakuza, elle va intervenir, elle va réussir à remettre en place les choses. C'est intéressant parce qu'à travers les films, il y a plusieurs éléments qui reviennent constamment. Déjà, au tout début, en tout cas dans les premiers films, elle se présente d'une certaine manière qui est très particulière, assez théâtrale, qui est en fait un code basique de rituel de présentation japonais avec une voix qui porte. Et dès le début, elle l'appelle... intercepte l'intention du spectateur parce qu'elle se présente à lui en disant qui elle est. Généralement, toujours dans ces films, avant l'affrontement final, on va passer une chanson. L'affrontement final, c'est un combat à l'épée. On va faire beaucoup de caméos d'anciens personnages, des anciens films qui reviennent, et c'est des caméos que moi j'apprécie énormément parce que d'une certaine façon, ça récompense celui qui suit la saga de manière très assidue. On va aussi avoir ce truc un peu particulier. Dans la majorité des films, il y a un chef de famille d'un clan Yakuza qui va mourir. Et c'est intéressant parce que c'est des films qui se passent durant la période Meiji. Du coup, on est à la fin du 19e, début 20e. Du coup, on est dans une période de transformation. C'est-à-dire que les samouraïs, ils disparaissent tous. On a l'arrivée de tout ce qui va être téléphonie, train, armes à feu. Et c'est intéressant de voir que, justement, on a ces chefs de famille qui meurent, qui sont remplacés, pas exactement par Oryu qui arrive, mais qui, elle, a une valeur un peu de progrès dans ses différents films, contrairement à cette vieille garde. Les 8 films, en fait, ils arrivent dans un espace-temps qui est très court. Sur 4 ans, on va avoir les 8 films qui vont sortir. On a toujours un peu le même rythme. Mais ce qui est intéressant, c'est en effet le personnage d'Oryu, qui est un personnage qui est censé être une yakuza, qui a ce côté très féminin qui est constamment mis en avant, mais c'est elle qui va aller dans les conflits régler les différents problèmes. Alors je vais pas faire le résumé de tous les films, mais juste le premier, c'est juste que son père Ariyoko a été assassiné. Elle prend la décision de suivre pour autant les traces de son père en devenant chef du clan, ce qui est compliqué vu que le clan est en partie décimé. Pour ça, elle va se faire tatouer une fleur rouge, d'où le surnom de Pivoine Rouge, et elle va partir sur les routes du Japon pour en fait s'entraîner, s'initier aux pratiques des yakuza, essayer de venger son père, parce que le seul indice qu'elle a, c'est un portefeuille qu'elle a retrouvé. Et au cours de ses voyages, elle va recevoir ce nom de joueuse, parce qu'elle va beaucoup jouer dans tout ce qui va être, j'aurais bien dit bar clandestin, mais c'est des lieux de Paris qui semblent assez officiels vu qu'ils sont tenus par les yakuza. Je sais que c'est une phrase un peu particulière, mais dans la série des films, ça fonctionne. Et sur sa route, elle va rencontrer un personnage qui est Katigari, qui est aussi un yakuza solitaire et qui est également en route, mais qui semble avoir une idée de qui est la personne qui a tué le père d'Oryu. Le premier film, il est fait par Kosaku Yamashita. Il reviendra pour le cinquième film. Une partie des réalisateurs va souvent revenir, mais le plus intéressant, c'est le scénariste des premiers films, qui est Norifumi Suzuki, qui est le réalisateur et scénariste du couvent de la bête sacrée, et qui va être le scénariste des quatre premiers films de la saga, et qui va aussi en réaliser. Et l'autre truc qui est encore plus particulier, c'est que c'est un membre de la famille de Sumiko Fuji, un peu comme s'il avait écrit les rôles pour lui. Alors comme je vous dis, l'introduction, elle est vraiment marquante. Ça se passe dans un cadre très rouge où elle part de manière théâtrale en disant « Je suis telle personne, j'appartiens à tel clan ». C'est quelque chose qu'on retrouve dans les différents films jusqu'au quatrième, dans lequel je ne m'étais pas rendu compte qu'il l'avait fait sauter. Et je m'en suis rendu compte parce qu'il y a un personnage qui est arrivé et qui s'est présenté de la même façon. Et ça aussi, c'est pour mettre en avant un point, c'est que c'est des films qui sont très inclus dans la culture japonaise, donc ils vont pas expliquer la majorité des choses qu'ils vont mettre à l'écran. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui voyage beaucoup dans les différentes régions, parce que dans chaque film, elle est dans une région qui est un peu différente. Si vous n'êtes pas doué en géographie japonaise, c'est pas trop grave, mais si vous savez exactement où elle va, c'est beaucoup plus pratique. Et autre chose qu'on retrouve, c'est justement ce rituel de présentation, de parler. Au début, on peut se dire que c'est très théâtral, mais en fait non, c'est des éléments qui sont très codifiés et qui reviennent tout du long dans les différents films. Alors, autre truc qui est particulier avec ce premier film, c'est que c'est l'un des rares films où ils vont tenter des expérimentations visuelles. Le reste des autres films, ça va être assez plat. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir des changements de couleur de pivoine. On va avoir un rêve flashback au moment où elle va chanter qui est extrêmement étrange. Il y a aussi tous les face-à-face que je trouve sont bien faits dans quasiment tous les films de la saga, que ce soit avant le combat à l'épée, dont celui du deuxième me fait beaucoup penser, lorsqu'elle est dans la neige entourée de samouraïs qui l'attaquent, à une certaine scène tournée par Tarantino dans Kill Bill, qui est assez proche. Mais les combats, ils sont super bien chorégraphiés. Il y a des points d'humour avec des personnages secondaires qui, dans les premiers films, sont un peu ridicules. C'est le cas d'un chef de famille dont j'ai plus trop le nom, qui doit s'appeler Kuromata ou quelque chose comme ça, qui en fait au départ est présenté comme un chef de famille un peu stupide, un peu bonnet, mais qui lorsqu'on a besoin de faire quelque chose, même s'il est terrifié, il va le faire. Quand il revient dans le troisième film, la façon dont il sauve Oryu, c'est incroyable. Le personnage s'est développé super bien à travers le temps et c'est assez fou. Et c'est ça l'avantage de la saga, c'est qu'au début j'ai dit qu'il y avait souvent des caméos, mais quand les personnages reviennent, ils ont avancé, ils ont évolué, tout comme Fujimatsu qui revient souvent, qui est un excellent combattant, qui est un jeune homme qui est amoureux, qui apparaît dans le deuxième film et qui va revenir au fur et à mesure et devenir la main droite. C'est vraiment une série de films que j'ai pris un énorme plaisir à suivre, qui arrive à garder des liens avec ses précédents films, qui arrive à innover dans sa présentation parce qu'ils font souvent changer les réalisateurs, mais qui arrive toujours à avoir des histoires qui vont être complexes, qui vont mettre en lien la modernité, les enjeux politiques. Le quatrième film qui s'appelle L'Héritière, on a justement tout ça. On est en train de construire une voie ferrée pour transporter du charbon, sauf que les marchands de bateaux qui s'occupaient de transporter le charbon, maintenant, ils n'ont plus de travail. Du coup, ils rentrent en guerre contre différents clans. Et c'est des films qui sont très souvent complexes, qui ont plusieurs voies à l'intérieur. Ils ne sont pas exceptionnels de la façon dont ils sont filmés, mais je trouve qu'ils sont toujours filmés à la perfection et que Oryu, qui tient le rôle principal à travers tous ces films, offre une force incroyablement paisible, efficace et rassurante.
Alors, c'est vrai que cette série de films, elle est très importante parce qu'on va retrouver des réminiscences. Alors, tu parlais de Tarantino tout à l'heure, mais Tarantino, lui, il parle surtout de Lady Snowblood, mais effectivement, les gens qui ont fait les 10 Snowblood avec Meiko Kaji, ils ont vu la pivoine rouge, évidemment. Et puis, on retrouve même dans le premier, parce que si elle a ce tatouage de pivoine rouge, là, c'est parce que son père, il est tué à côté d'un massif de pivoine rouge. Et cette idée du rouge sur le blanc, qui rappelle les couleurs du drapeau japonais, on peut se rappeler aussi que dans la femme scorpion, avec Meiko Kaji, toujours l'immense Meiko Kaji, eh bien, il y a une scène de viol et que Meiko Kaji, le personnage de Meiko Kaji est violé et qu'on lui prend sa virginité. Donc elle est sur une sorte de drap blanc ou je ne sais plus, enfin bref. Et on voit cette tache rouge de sang de la virginité qu'on lui a pris et le réalisateur enchaîne avec un plan du drapeau japonais. Voilà, donc on a... on ne peut plus clair, hein, je veux dire. Effectivement, il y a plein d'idées de mise en scène là-dedans qu'on va retrouver dans d'autres films de cinéma populaire. Parce qu'on est dans du cinéma populaire exigeant, hein, parce que c'est... Tu l'as dit, bon, c'est pas exceptionnellement filmé quand même, si, hein, c'est quand même super bien mis en scène, mais c'est... Il y a pas... je reviendrai sur un réalisateur, d'ailleurs, de la série, qui, pour moi... m'a surpris, parce que j'adore Norifumi Suzuki, il fait le deuxième de la série, le deuxième s'appelle La Règle du Jeu. J'adore Suzuki parce que j'adore Le Couvent de la Bête Sacrée, parce que c'est complètement barré, voilà. Et en fait, c'est pas mes préférés dans la série, celui qu'il a fait. Alors tu le dis, c'est fait à un rythme effréné, puisque La Pivoine Rouge, ça sort en 68, La Règle du Jeu en 68, Le Jeu des Fleurs en 69, L'Héritière en 69, Chronique des Joueurs en 69, trois films la même année. Le retour d'Oriou, il ne devait pas quitter le studio. Hein. Le retour d'Oriou, c'est 70. Prépare-toi à mourir, c'est 71. Et le Code Yakuza, c'est 72.
On sent qu'ils ont ralenti à un moment.
Ah, ils ont ralenti, mais ils sont plus longs aussi, les derniers films. Ils sont encore un peu plus ambitieux. Et puis, l'histoire est super basique. Elle veut juste reconstituer son clan de Yakuza, donc on peut faire 20 films. Elle peut parcourir plein d'endroits pour retrouver.
Bon, il lui a pas fallu 20 films pour le faire, mais.
Mais on peut.
Il en a fallu plusieurs.
On peut. Non, moi, je voulais sortir de cette série de films. Moi, ce que j'aime le mieux, c'est-à-dire le premier, évidemment, mais Le Jeu des Fleurs, Le Retour d'Oriou, et puis Prépare-toi à mourir. Ils sont tous les trois réalisés par Tai Kato, que moi, je ne connaissais pas. Et je trouve que, justement, c'est celui... Moi, je ne trouve pas que c'est filmé classique, en fait, quand c'est filmé par lui. Je trouve que c'est le plus original. Il va placer sa caméra au niveau du sol, il va faire des plans un peu bizarres, il peut utiliser des cadrages vraiment étonnants, il va jouer avec... le grand angle et tout ça. Enfin, il va faire des choses assez étonnantes. Il va jouer avec les focales, tout ça, le grand angle, ce que je disais à l'instant. Et puis, il va jouer aussi avec le hors-champ, en faisant participer des personnages à l'action qui ne sont pas dans le champ de la caméra. Enfin, il y a une vraie ambition dans la mise en scène.
Ouais, ça, tu l'avais déjà dans le premier, où tu as un combat, justement, où ils attaquent la maison du clan et tu les vois, ils ne sont pas très espacés, mais quand il y en a un qui se bat, en arrière-plan, tu vois ce qui se passe. C'est quelque chose qu'il arrive bien à réadapter... Kato, et en plus tu as raison, il rajoute des éléments supplémentaires dans ses plans, dans sa mise en scène, dans son rythme. C'est avec lui qu'on va avoir les premières scènes de course-poursuite, c'est avec lui qu'on va avoir le sang qui va commencer à gicler, c'est aussi lui qui commence à jouer justement avec cette mise en forme, cette introduction rituelle dont j'en parlais, et qui nous montre, qui arrive à nous expliquer que non, en fait, c'est l'introduction du début. Mais je suis d'accord avec toi, ça, c'est... en tout cas, les films de Lady Yakuza qu'il a fait, ce sont ceux qui m'ont le plus marqué.
Oui, il a un vrai style qui le distingue des autres metteurs en scène, parce qu'il s'inscrit, comme tu le dis, dans la continuité. On est dans du cinéma, c'est de l'industrie. Hein. Donc, il reproduit le schéma du premier film qui a fonctionné, comme ça, tout le temps. Mais sauf que... lui, il apporte sa patte. Puis c'est une découverte, c'est un cinéaste que je ne connaissais pas. Donc pour moi, c'est une vraie découverte. Et donc, le coffret Lady Yakuza sorti chez Carlotta Film. C'est même pas qu'on vous le recommande, c'est qu'on vous ordonne de vous précipiter dessus parce que c'est assez incroyable. Et à l'instar d'ailleurs de parler du coffret chez Roboto Film des Ato Ishii, là c'est pareil. Les affrontements, la violence, tu l'as dit, c'est plutôt... un côté thriller, c'est fait de tension, c'est aussi un peu dramatique, mais
les affrontements, à chaque fois, c'est l'acmé du film, mais ça ne se bastonne pas toutes les 5 minutes. Quoi. Voilà, donc c'est assez étonnant, c'est très beau, c'est très, très, voilà, c'est vraiment une très chouette série, c'est vraiment une très belle série de films. C'est la découverte d'une actrice qui a été beaucoup critiquée parce qu'elle est de la famille du producteur, tout ça et tout. Alors qu'en fait, elle est très bien, elle convient très très bien au rôle. Mais bon, il faut bien trouver quelque chose à dire, hein. Les mauvaises langues. Mais voilà, on vous conseille donc vivement Lady Yakuza. C'est sorti chez Carlotta Film et c'est un coffret qui réunit 8 films d'excellente facture. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demédy, la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Yeah, sure.